Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Talk. Moi, c'est Gaspard Lally et vous écoutez le podcast de Belgium Performance. Dans le Training Talk, je réponds principalement à vos questions sur l'entraînement et je vous partage également certaines choses sur mon parcours. Tout d'abord, si vous êtes là, je tiens à vous remercier d'avoir cliqué sur le bouton Play. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube également, parce que depuis pas longtemps, je poste les vlogs de mes entraînements et de mes matchs. D'ailleurs, la dernière vidéo, je pense le premier match en Belgique, Soigny la Hulpe, a fait 1200 vues. Ça peut représenter rien, 1200 par rapport à ce que d'autres personnes font, mais je trouve ça quand même énorme en ayant juste partagé ma journée, qu'il y ait eu autant de retombées entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, je réponds assez souvent. Donc on va commencer, je vais vous présenter les trois sujets. Aujourd'hui, on va parler de la notion de plaisir, c'est une question qui m'a été posée par un arbitre en Belgique. Donc c'est marrant qu'on sorte un peu du cadre de l'athlète type joueur de rugby. Là, c'est un arbitre qui me pose la question de comment toujours trouver du plaisir dans la performance. Ensuite, une seconde question. Cette fois-ci, joueur de rugby, quelqu'un dans le monde du rugby également, mais photographe, si je ne me trompe pas. Comment se relever après une défaite? Est-ce que j'ai une routine particulière après un moment difficile, j'imagine, ou après une défaite? Ensuite, dernier sujet, normalement j'en ai trois, donc ce sera le dernier sujet qui m'intéresse et dans lequel je me retrouve totalement. Comment organiser ses entraînements avec son boulot quand on veut performer? Il y a une deuxième question qui était la même. Quels sont tes conseils pour suivre un programme et être présent au rugby avec des horaires variables? Donc, quelle est l'influence un peu du travail par rapport à la performance? Il y avait une quatrième question intéressante, et on verra si on a le temps. C'est quelle est la quantité charge par semaine nécessaire à un athlète pour performer? Beaucoup plus dans la préparation physique. Donc voilà, on est parti. C'est le premier podcast du mois de mars, pour ceux qui nous écouteraient bien plus tard. Comme ça, vous savez où on en est. Je reviens des Fidji depuis 3 semaines et puis j'ai fait mon stage avec les Diables Noirs et on a vécu une défaite contre l'Allemagne dans le Rugby Europe Championship. Donc la première question est super intéressante. Comment se relever après une défaite et est-ce que j'ai une routine? Alors tout d'abord, comment se relever après une défaite? C'est simplement de faire un bilan. Qu'est-ce que je fais comme bilan par rapport au match? Ici, le staff de l'équipe nationale a très bien fait ça, je trouve. Tout d'abord, sur le terrain, quels sont les conclusions à faire à chaud? La plupart du temps, on essaye de ne pas en faire parce que lorsqu'on est à chaud, c'est peut-être plus les émotions qui parlent. Et lors d'une défaite, c'est des émotions qui sont la plupart du temps négatives. Le rôle du coach ici, le rôle qu'il a pris, en tout cas, le chemin emprunté par le coach était simplement de se rassembler ensemble. D'abord, l'équipe autour de ce qui fait notre sport, donc le collectif. Donc on a, dans le vestiaire, discuté, bu une bière, on a pris le temps un petit peu de digérer cette défaite parce que beaucoup de joueurs étaient abattus. Pour ma part, comme j'ai pas joué le match, j'ai pas pu vivre et je peux pas décrire les émotions qui ont été vécues par les joueurs. Mais ça reste quand même, vu qu'on s'est entraîné toute la semaine, une grosse déception pour la Belgique. Surtout vu les grosses performances qui ont été faites auparavant. Donc le staff, tout d'abord, pour se relever, c'est d'abord d'assumer, je pense, dans un premier temps, la défaite et de l'accepter. Et puis faire le bilan, savoir qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on a fait pendant et qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Est-ce qu'on doit assumer toute la responsabilité de cette défaite? Là, je parle de n'importe laquelle. Ou est-ce qu'elle peut être incombée à certaines choses qui sont identifiées auparavant ou qui sont identifiées lors de ce bilan? Donc ici, pour vous donner un exemple, donc avec les Diables Noirs, chaque joueur qui a participé au match, bien évidemment, devait faire une analyse individuelle de son match par rapport à certains points précis, certains points de performance qui ont été identifiés. Ici, à vous de l'identifier. Si vous faites un mauvais match, d'abord, ce que vous allez faire, il me semble, c'est de regarder votre match sur Internet. J'espère que vous avez accès maintenant à ce genre de vidéos, mais normalement en Division 1 en Belgique et même partout, je pense que les matchs sont filmés. D'abord, faites une analyse individuelle de vos performances. Nombre de passes, est-ce qu'elles ont toutes été bien réalisées? Nombre de plaquages, est-ce que ces plaquages ont été bien réalisés? Faites un petit tableau de statistiques de performance. Parce que les statistiques, vos données vont vous permettre d'objectiver un peu votre défaite. Enfin, votre performance qui a mené à la défaite. Ensuite, après ces stats, il va falloir les interpréter. Dans quelle situation chaque donnée et quel en est le résultat. Donc ça veut dire, est-ce que chaque plaquage, par exemple, était un plaquage raté qui a mené à une situation négative, ou est-ce que la situation était déjà négative lors de l'échec, par exemple. Ensuite, personnellement, pour continuer là-dessus, lors de défaites, il faut savoir être objectif, et c'est le plus dur. On a souvent tendance à remettre la faute sur d'autres personnes, donc là, encore, les données vont vous aider. J'ai pas spécialement dans la question, est-ce que j'ai une routine par rapport à se relever d'une défaite, mais c'est surtout de continuer le travail. Est-ce que je fais confiance au travail que je fournis depuis le début ou pas? Est-ce que je suis responsable de mes performances dans un premier temps? Ça veut dire, si par exemple ça fait 3 semaines, je dois l'écrire ça bien évidemment, que je m'entraîne mal, que je suis pas concentré, qu'il y a d'autres choses dans ma tête qui ne me permettent pas de performer. Bon, ben la première étape, ce sera de régler ce souci-là avant de vouloir régler ce qu'il y a sur le terrain. Parce que régler des choses sur le terrain sans avoir pu auparavant régler les problèmes extra-sportifs, disons. Quand je dis extra-sportif, c'est vraiment ce qui se passe en dehors du terrain, donc vos entraînements individuels, votre préparation. Ensuite, lorsque ça c'est fait, ça vous donne déjà une grosse idée du travail à fournir, s'il y en a. S'il n'y en a pas, parce que vous faites exceptionnellement tout correctement, là, il va falloir voir un peu, est-ce que votre processus, le jour même ou le jour de votre match, vous met dans des bonnes conditions. Et encore une fois, si là, vous faites tout extrêmement bien, il va falloir se poser une question plus profonde. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour gagner ce genre de match ou ce genre d'événements qui ont mené à une défaite? Donc, pour ma part, simplement, lorsque j'ai une défaite, c'est une analyse de ma performance individuelle. Ensuite, une analyse collective, ça veut dire, est-ce que mes échecs viennent de moi totalement ou est-ce qu'ils viennent d'une autre, enfin, du collectif en général? Que cette analyse soit objectivée par des données, ça veut dire nombre de coups de pied réalisés, nombre de plaquages réalisés, et faites un mini pourcentage de ça. Et ensuite, c'est remettre de l'ordre dans ce que vous êtes en train de faire. On ne se rend pas compte à quel point on est rapidement pollué par des mini-choses qui ont une importance, finalement, sur le long terme. Lorsque vous faites vos séances de préparation physique, par exemple, peut-être que vous skippez la fin de votre séance des 15 minutes d'abdos et de bras, par exemple. Quel serait l'impact de la réalisation de ce dernier bloc de travail sur le long terme, de semaine en semaine? Est-ce que vous ne skippez pas plutôt votre travail au niveau des ischios, par exemple? Et puis, vous vous rendez compte, ben oui, je l'ai mis dans le programme, mais je ne le fais pas, ou je le fais à moitié, ou je traîne. Et c'est la même chose, est-ce que je réalise mon travail technique sur le terrain, par exemple ma technique de plaquage, ma technique de passe? Est-ce que je suis concentré lors des consignes des exercices ou lorsque je vais aux entraînements, si vous ne faites pas de musculation ni d'extra parce que vous n'avez pas le temps et vous êtes totalement amateur? Est-ce que lorsque l'heure et demie que vous avez en club, qui est que 2 fois 1h30, vous êtes réellement concentré? Finalement, lors d'une performance, c'est tout le travail en amont qui résulte ce jour-là, simplement. Et donc, si je devais faire quelque chose, c'est faire le bilan de ce travail-là. Donc, c'est ça ma routine. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et que ce soit dans le rugby, hein, ça peut tourner autour de tout sport ou également et simplement de votre vie de tous les jours ou de votre travail. On passe à la deuxième question. Comment organiser ses entraînements avec son boulot quand on veut performer et quels sont donc mes conseils pour pouvoir suivre un programme adapté avec, lorsqu'on a un horaire soit variable ou fixe, mais un horaire qui nous pose problème, ça veut dire quand on est amateur. Comment on fait quand on est amateur? Cette question, elle me parle parce que même si je m'entraîne beaucoup, même si je pratique le rugby, disons, le plus souvent possible, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, que je veux performer de la meilleure des manières, comment je fais? Bon, la première étape, je l'avais déjà dit dans un podcast il y a peut-être un an ou deux, hein, s'organiser, simplement s'organiser et planifier. Lorsqu'on a un travail fixe, 8-16, normalement, il ne devrait pas changer constamment. Ça veut dire l'avantage, c'est que l'horaire ne change pas, de semaine en semaine, de jour en jour, normalement, c'est la même chose. 8-16 ou je sais pas, ça dépend de votre boulot. Donc ça, c'est une variable facile à contrôler. Tous les jours seront les mêmes. Ce qui va changer, c'est notre état de forme, notre motivation, notre envie. Mais l'heure à laquelle on s'entraîne sera toujours la même. Donc ce sera simplement une organisation et savoir s'accrocher à son organigramme, à son planning de la semaine. Donc là, le planning il peut être fait un mois à l'avance. Il peut constamment rester le même en fonction du nombre de séances, en fonction de la séance prévue. Si je devais donner un conseil en tant qu'amateur, si je devais m'entraîner, je choisirais de m'entraîner deux fois semaine en salle de musculation et je rajouterais autour de mes entraînements, si j'ai deux entraînements, 15 à 30 minutes de skills, de vitesse, même de musculation si j'ai un défaut, et je ferais pas plus. Si je me retrouvais dans ce cadre-là. Car lorsqu'on est amateur, on doit trouver simplement l'équilibre entre le plaisir qu'on veut prendre, entre le plaisir de performer, la capacité à récupérer et notre vie sociale, bien évidemment. Même si par période, on peut s'entraîner 6-7 fois semaine sur le long terme, pour tous les athlètes que j'ai eus, le meilleur équilibre, c'est réellement 3 fois semaine maximum et 2 fois semaine, ça fonctionne extrêmement bien. Oui, les progrès seront plus longs, ils seront sûrement peut-être un peu plus lents, mais l'équilibre sera meilleur et le plaisir sera augmenté. Et alors donc, si l'esprit est relâché, à ce moment-là, on inverse un petit peu cette tendance, comme je dis, d'avoir des progressions plus lentes. On a des meilleures intentions lorsqu'on s'entraîne et donc on performe mieux. Donc, dans votre organisation, premièrement, c'est de caler vos 1h, 1h30 de musculation ou de ce que vous voulez et autour de vos deux entraînements et être sûr que ce soit fixe. Et après ça, une fois que pendant 6 mois, vous arrivez à le faire, on peut rajouter quelque chose. N'ayez pas peur de faire moins parce que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous brûler. Il y a un truc en anglais, une petite phrase qui disait... Un poulet, quand il est brûlé, on ne peut pas le faire revenir en arrière. Par contre, quand il n'est pas assez cuit, on peut le remettre dans le four. Je crois que c'est un truc comme ça. En gros, si tu es sous-entraîné, on peut augmenter la charge. Mais une fois qu'on a été trop loin dans la charge d'entraînement et que tu es complètement cramé, que tu es blessé ou que mentalement, tu n'en as plus envie, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça dans l'autre sens. Donc, je reviens un peu en arrière. Pensez à vous organiser. Vous imprimez un tableau Excel, vous notez... Je m'entraîne ces jours-là, ces jours-là, ces jours-là, ces jours-là. Ok, je sais comment ça se passe. Ma journée, elle s'organise autour de ça. Les mardis et jeudi, je m'entraîne à 20h. Je finis le taf à 16h. Qu'est-ce que je fais entre eux ? Je rentre chez moi. J'ai mon sac déjà prêt ou pas ? Vous avez en musculation alors le mercredi et le vendredi. Vous pouvez soit décider d'aller directement après le taf, mais vous le notez. Et par contre, il va falloir s'y accrocher. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Car quand je ne suis pas organisé, ça veut dire que je n'ai pas de programme. Je ne sais pas ce que je vais faire à la salle. Je sais, oui, je vais faire des squats, je vais pousser, je vais faire du bench. Mais c'est un peu aléatoire et quand j'y arrive, j'écris vite fait dans mon carnet ce que je vais faire. Et de semaine en semaine, ça change. Sans vraiment de structuration, déjà, je perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale. Moi, je préfère arriver, j'ouvre mon app. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore un athlète Belgium Performant, je vous conseille de nous rejoindre dans le groupe Rugby Athletics ou en one-to-one. Évidemment, on est pas mal déjà. Je pense qu'on est 47 athlètes qui s'entraînent sous Belgium Performance. Et on travaille avec une application justement pour que les athlètes aient plus à réfléchir. Tu prends ton téléphone, tu ouvres l'app et la séance, elle est là. Et donc, j'ouvre mon app et je commence ma séance. J'ai mon échauffement qui est tout préparé, donc je me lance et j'y vais. J'ai mon priming, j'ai mon corps de séance, j'ai mon gainage à la fin, par exemple. Déjà, ça, c'est sûr. Avoir, pour mieux bien s'entraîner lorsqu'on a un travail, c'est également, et qu'on s'y connaît à moitié, c'est d'avoir un coach. Ça vous aide à vous structurer. Faites confiance à quelqu'un. Vous savez ce qu'il vous dit, vous lui faites confiance. Vous faites juste les séances, vous faites votre taf. Vous, le but, c'est d'être bon le dimanche. Lui, il fera le travail pour que vous soyez bon à l'entraînement. Et je pense que là, on a fait le tour en tant qu'amateur avec un boulot de 8-16. Ça sera la même chose si on a des horaires variables. Les horaires variables, c'est plus compliqué parce qu'ils varient, évidemment. Alors, il faudra de semaine en semaine, chaque semaine, planifier les dimanches soirs, faire un petit bilan de la semaine, comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai réussi à m'organiser correctement ? Par exemple, en tant que coach sportif, j'ai des horaires variables, extrêmement variables. Ça veut dire que un jour, je travaille le mercredi de midi à 18h et la semaine d'après, je commence à 10h et j'ai un trou de midi à 14h, etc. Si je ne m'organise pas, je vais me balader dans la salle, pas profiter du moment que j'ai de midi à 14h pour m'entraîner ou alors le faire sans réelles intentions, ce ne sera pas correct, j'aurai perdu du temps. Et donc, c'est la même chose. soit en tant que coach, en tant à horaire variable, enfin dans ton métier, tu décides de garder tout le temps les mêmes horaires variables, ça tu le sais, soit tu acceptes de les changer en fonction de ta demande, mais alors c'est tous les dimanches, il faut être certain que le lundi matin à 8h, tu saches ce que tu vas faire et ça va se terminer jusqu'au samedi soir. Et puis tout le reste, c'est la même chose. Tu le tapes sur ton tableau Excel, que tu imprimes, que tu affiches sur ton frigo et tu n'y déroges pas. Et la priorité sera mise sur ton entraînement parce que ça, c'est ton objectif. Après, évidemment, c'est difficile lorsque tu pars en camp d'entraînement, lorsque tu as un week-end sportif, mais c'est la même chose. Une fois que c'est planifié à l'avance et que ça rentre concrètement dans ton projet de vie de t'entraîner, les choses sont beaucoup plus simples. Par contre, lorsque tu hésites, que c'est pas clair, que c'est pas réellement ta priorité, ça va toujours passer en second plan, ça va toujours sauter. Tu pourras en vouloir qu'à toi-même, mais en fait, c'est juste simplement que tu auras fait le mauvais choix et que c'est pas ce que tu aimes. Et on va passer... Je pense que là, j'ai fait le tour un petit peu. J'espère que je réponds à vos questions. C'est pas facile d'être très, très clair parce que je suis tout seul. Mais si jamais vous voulez que je élabore un peu plus, on peut en discuter, bien évidemment, en privé. Alors, je vais revenir à ce qui devait être la première question. Voilà, question d'un arbitre qui a arbitré en Belgique et à haut niveau également, si je ne me trompe pas, et qui maintenant n'est plus arbitre. En tout cas, pas en Belgique. La question était, on parle souvent de notion de plaisir pour pouvoir performer. Donc, prendre du plaisir. Mais j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec cela. Les athlètes qui souhaitent performer ne souffrent-ils pas plus qu'ils ne prennent de plaisir dans leur sport ? Alors, selon moi, il y a deux grands types d'athlètes. Évidemment, si vous ne vous sentez pas dans ces deux catégories, hein, il n'y a pas que deux types d'athlètes, mais je vais prendre ces deux exemples-là pour en discuter. Il y a ceux qui vont prendre du plaisir dans la performance pure. Ça veut dire dans le résultat final, que ce soit une victoire, un objectif de charge, etc. Ou dans la pratique de la discipline, au plus haut niveau ou au niveau désiré. Et ensuite, il y a ceux qui vont prendre du plaisir dans le processus, dans ce sentiment de capacité, d'accomplissement de soi, avant de réussir quelque chose. Personnellement, je ne sais pas trop, c'est difficile à dire où je me trouve, mais je préfère de plus en plus pratiquer ma discipline et prendre le plaisir sur le terrain. Ça veut dire ressentir des émotions et de la joie, par exemple, lorsque je joue au rugby, plutôt que de m'entraîner pour performer. Or qu'avant, je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner sans forcément performer. Pour le moment, c'est plus les sensations et les émotions qui me guident quand je joue que le processus. Donc ça varie, hein. Il y a eu des périodes où c'est vraiment, j'adorais m'entraîner, qu'être sur le terrain, mais ça ne me dérangeait pas du tout de faire 6-7 séances par semaine, de souffrir pendant ces séances. Si tu choisis d'être dans la première case, c'est difficile et donc il va falloir trouver un entraînement qui te convient. Absolument. Sinon, c'est un enfer. Tu t'entraînes d'une manière qui ne te convient pas parce que toi, le but, c'est d'être sur le terrain, c'est d'avoir des émotions grâce à ta discipline, réussir des choses. Et ça, c'est donc difficile. Il faut trouver une variante. Et pour le moment, je suis là-dedans, par exemple. Moi, c'est prendre des émotions, prendre du plaisir en jouant. Et donc, c'est très difficile de m'entraîner pour le moment. Si tu es dans l'autre catégorie, à l'inverse, tu vas profiter de ton entraînement, mais ce n'est pas toujours facile d'être au top. Je pense qu'un truc qui me parle pour le moment, c'est surtout quand on est sportif de haut niveau, on est beaucoup plus confronté à l'échec qu'à la réussite. La réussite, elle est que passagère. Si tu as de la chance, pour certains, évidemment, vous allez me dire, il y a des... Rafael Nadal et d'autres ont gagné tous les ans Roland Garros pendant 20 ans. Mais entre guillemets, la réussite n'est que passagère pour la plupart des gens. Ça veut dire que c'est un seul moment sur ta semaine, c'est un seul moment de gloire sur ton année ou sur ta carrière, tout simplement. Donc tu auras souvent beaucoup plus d'échecs que de victoires. Il faut donc apprendre finalement à profiter de ces échecs et de ces moments plus difficiles que pour continuer à progresser et à avancer et aller vers ton objectif. Ton objectif final doit être très grand, peu importe ce qu'il est finalement. Cependant, s'il reste trop grand et trop loin de toi, c'est difficile également de se projeter. Parmi tous cet objectif final, tu dois décomposer le tien en petites étapes, en micro-objectifs qui, eux, vont t'amener du plaisir. Mais lorsque tu as l'échec, ça s'apprend, hein, ça s'appelle l'expérience. En fait, finalement, l'expérience, elle vient surtout lorsque tu te plantes, lorsque tu as une défaite. Il faut apprendre à rebondir, il faut apprendre à en profiter également, à profiter des moments difficiles pour devenir meilleur. Pas qu'il faut tout le temps en vivre. Et même, par exemple, lorsque tu fais tes choix, il faut savoir qu'à tout moment, tu peux te tromper. Et même si on te le dit, l'expérience de vivre un échec sera toujours plus grande que l'histoire qu'on t'a racontée sur l'échec que tu allais affronter. J'ai peut-être fait des choix, par exemple, personnellement, qui m'ont mené à avoir des échecs, que ce soit dans ma préparation physique. Mais le fait de les vivre, ce sera toujours meilleur pour moi en tant que sportif que simplement d'avoir écouté un kiné à qui j'ai dit « Non, je pense que en fait ça va », et alors que lui, il me disait que non, ça allait pas. Même s'il avait raison au final, hein, même si j'aurais dû l'écouter, ça aurait peut-être été mieux, mais dans ton histoire personnelle, je ne suis pas certain. Après, je ne dis pas qu'il faut écouter personne et en faire qu'à sa tête, mais certaines fois, c'est intéressant. Ceci dit, prendre du plaisir tout le temps à haut niveau, ça n'existe pas non plus. Ça veut dire que des fois, en fait, tu te perds parce que tu ne sais plus ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais. Et à ce moment-là, ça devient difficile d'aimer la pratique parce que tu ne t'y retrouves pas du tout, en fait. On ne peut pas toujours aimer quelque chose, mais quand on s'y investit, on se doit, en tant que personne, d'y aller à 100%. Et ça veut dire qu'il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Si tu penses que le sport, du moins en tant qu'athlète de haut niveau, n'est que du plaisir ou n'est que de la souffrance, on se plante. C'est un équilibre entre les deux. Clairement, il y a plus souvent de la souffrance. La souffrance physique, lorsque tu t'entraînes, mais la souffrance mentale, lorsque tu t'entraînes et que ça fait mal, et que tu n'y arrives pas, ou que tu ne gagnes pas, et que tu ne comprends pas pourquoi. Parce que toi, tu fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'on te dit, tout ce que tu t'imposes à toi-même, et que tu n'as aucune vision sur l'avenir. Donc voilà, la notion de plaisir, elle est individuelle. Elle incombe à chacun de faire ses choix pour elle, mais c'est vrai que c'est le principal. Si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, peu importe la manière, hein, si tu adores souffrir et être dans le mal et que c'est ça qui te fait performer, il faut le faire. Si tu adores juste être sur le terrain, performer et pas t'entraîner, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que, effectivement, pour performer sur le terrain, même si c'est ton plaisir principal, bah, il faut quand même s'entraîner. Mais c'est vrai que c'est des mots difficiles à mettre entre guillemets, la notion de plaisir. Il faut avoir du plaisir, mais qu'est-ce qu'il est? Et ça, bah, comme je viens de vous le dire, c'est chacun le définit pour soi, et dans un sport collectif, il faut qu'il soit défini pour l'équipe et tous ensemble. Je vais répondre quand même à la dernière question qui m'intéresse. Quelle est la quantité de charges par semaine nécessaire à un athlète pour performer? La charge, elle va représenter le nombre d'heures d'entraînement, l'intensité de vos entraînements, à mettre en proportion avec la récupération que vous y mettez, votre expérience sportive, votre expérience d'entraînement, vos anciennes capacités atteintes, votre âge, beaucoup de choses. Donc, difficile de donner directement une réponse nette, parce que cette charge-là, elle va dépendre de chacun. Il y a des personnes qui peuvent s'entraîner énormément. Il y a des personnes qui ne savent pas s'entraîner énormément, par contre, qui arrivent à mettre beaucoup d'intensité dans leur entraînement. Je vais me prendre encore une fois comme exemple. L'hiver passé, on avait fait avec Louis, de Mofar, donc un joueur de la Hulp. On avait une préparation, on avait été voir un préparateur physique à Gand qui utilisait la méthode Franz Bosch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode que j'inclus également dans les programmes, car j'ai découvert à ce moment-là, où on parle beaucoup de co-contraction musculaire au niveau de différentes articulations, principalement la cheville, la hanche et le gainage type course à pied. Dans la plupart des exercices, c'est des exercices à très haute intensité et avec un feedback direct, ça veut dire la réalisation de l'exercice définit l'intensité. Une fois qu'un exercice est réussi, eh bien, il faut le rendre plus dur directement. Il n'y a jamais une répétition qui peut se ressembler. Comme sur les hip-locks où j'explique que à chaque fois que j'arrive à faire le hip-lock d'une bonne manière, je dois reculer mon pied, il faut que ce soit plus difficile, sinon le corps ne va pas s'adapter. Lors de ces séances, on était donc deux profils différents, Louis et moi, où j'arrive à produire énormément d'intensité, de puissance et de vitesse sur les exercices. Par contre, je ne peux le faire que sur deux séries. Et à l'inverse, Louis, lui, produit peut-être moins de puissance, moins d'intensité, mais il peut le faire sur beaucoup plus de séries. Une séance de ce type-là, moi, ça me cramait complètement pour la journée. Louis, lui, ça lui imposait un peu moins de fatigue. Donc, pour déjà montrer que chaque personne est différente à un même entraînement. Mais je peux quand même vous donner quelques conseils. D'abord, c'est de noter pour savoir quelle est votre charge d'entraînement. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne notent jamais ce qu'ils font, ni les charges, ni les répétitions, qui n'ont aucun suivi par rapport à ce qu'ils font. Et ils ne peuvent pas savoir est-ce que ma charge est plus haute cette semaine, est-ce qu'elle est plus basse. Simplement, vous faites le nombre de répétitions fois le nombre de séries fois la charge utilisée. Ça vous fait un tonnage à la fin de la séance, c'est très très simple. Hein. Et déjà là, ça va vous donner une indication. Si vous soulevez 5 éléphants 3 fois par semaine, la semaine d'après, vous passez à 6, puis d'un coup, vous passez à 10 3 fois par semaine, vous savez pourquoi vous êtes fatigué. À l'inverse, vous perdez, vous avez l'habitude de soulever 10 tonnes par semaine. Et puis, pendant un mois, vous soulevez que 3 et vos performances baissent, ben vous savez que votre charge, elle doit être un peu plus élevée. Sinon, moi, je conseille encore une fois de s'entraîner 3 fois semaine. Lorsqu'on est en saison, j'aime bien ne faire que 3 séries d'exercices avec une des séries qui est vraiment à intensité maximale et les deux autres sous-maximale. Moi, c'est l'équilibre que personnellement, je trouve et je fais qu'un exercice par mouvement de base. Par exemple, une extension au niveau du bas du corps, un poussé, on va dire un tirage, donc tout ce qui va être dominant de hanche. Et la même chose pour le haut du corps, donc un mouvement de poussé, un mouvement de tiré par séance, simplement, lorsqu'on est en saison. Car en saison, on ne cherche pas réellement à développer le plus possible, mais c'est surtout à trouver cette balance entre est-ce que je me fatigue ou est-ce que je ne me fatigue pas. Et là, on essaye de vraiment rester à la fatigue la plus basse pour la progression la plus haute. Voire des fois, je ne fais que 2 séries lorsque je me rapproche des matchs. Donc 3 entraînements, 3 séries par mouvement de base, un poussé, un mouvement de poussé bas, un tirage bas et un poussé, un tiré au niveau du haut du corps. Plus peut-être les accessoires de prévention, où là également, on ne fait pas 5-6 séries, on en fait 2, on en fait 3, voire un peu plus, 4, si jamais il y a vraiment une problématique. Lorsqu'on est hors saison, c'est un peu différent. Là, je passerai soit à 4, voire 5 séries quand on veut vraiment bosser sur un point faible, et un ou deux exercices, c'est bien, par mouvement. Et donc, les séances seront délivrées différemment. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez progresser, mais plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous fatiguer. Et plus vous êtes fatigué, moins vous progressez. Je le répète encore une fois, le but, c'est d'être performant sur le terrain le dimanche. La progression est mieux à être plus lente pendant la saison et plus forte en hors-saison, bien évidemment. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai partagé les entraînements qu'on a fait avec les Diables Noirs, donc le mardi, mercredi et vendredi. Ça, c'est une semaine type que j'aime bien faire en saison. Effectivement, on se sent moins gonflé, on se sent moins costaud, mais pourtant, on a bossé toutes les qualités nécessaires que pour être sur le terrain. Si vous sentez que vous ne progressez plus après 6-12 semaines avec seulement 3 séries, simple, soit vous ajoutez une série, soit sur les 3 séries, vous faites 2 séries à intensité maximale. à vous de choisir, à vous d'explorer. Mais encore une fois, si vous changez ce genre de format, si vous travaillez avec ce genre de format, il faut absolument noter, que ce soit dans votre application ou dans un carnet, pour savoir ce que vous faites, comment votre corps réagit. J'ai augmenté à 2 séries, je suis cramé toute la semaine, et ça n'évolue pas, surtout au fur et à mesure. Lorsque vous allez changer une variable, rajouter une série de 6 répétitions sur un squat jump, par exemple, oui, les 2 premières semaines, ça va être un peu plus fatigant. Mais votre corps va, c'est normal, votre corps va s'habituer. Mais est-ce que après les 3 semaines, je continue à être fatigué et à sentir moins de capacité lorsque je joue? Ça veut dire qu'on a dépassé la charge d'entraînement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette question. Je pense que je vais approfondir un petit peu plus la question et essayer de développer peut-être un petit post un peu plus complet sur le calcul de la charge d'entraînement d'un athlète. Mais donc, pour revenir à ça, elle est individuelle et elle doit être spécifique à ta discipline et à ta capacité d'entraînement. Le mieux, si tu fais ça en tant qu'amateur et le seul dans ton coin, c'est de tester en partant d'une base de 3 séries par exercice. Plus le nombre de séries va augmenter, moins tu vas pouvoir mettre d'intensité et plus tu seras fatigué par après, et donc il faudra récupérer. Moins tu fais de séries, moins tu vas progresser, mais plus tu vas pouvoir mettre d'intensité et être capable de performer. Voilà, je vous remercie. On est à la fin du podcast et donc je vous remercie si vous avez écouté jusque-là les 31 minutes de ce Training Talk. Merci à vous pour les questions, ceux qui les ont posées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager en story. Une petite story du réel du podcast, ça vous prend 15 secondes, mais moi ça m'aide énormément. Ou m'envoyer, si vous n'aimez pas partager story parce que vous êtes gêné de montrer que vous me soutenez, parce que vous êtes timide, je peux le comprendre. Alors, vous m'envoyez un petit message en story, en DM sur Belgium Performance et vous me dites ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a satisfait? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Et peut-être que ce n'était pas assez clair et que bah, la prochaine fois, je prendrai un peu plus le temps de me poser, de parler plus doucement et d'avoir les idées un peu plus structurées. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Training Talk. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo YouTube, le vlog Rugby Day, Swanny La Hulp. Bien évidemment, on est en train de bosser sur le voyage aux Fidji et sur le vlog Belgium Rugby où je vous montre un peu l'intérieur du décor en tant qu'athlète de ce qui se passe avec l'équipe nationale. À bientôt!